Les infos à Washington.
Georges Bion, il est 11h en temps universel. Bonjour à tous. Les chefs d'État africains se rassemblent ce week-end à Addis Abeba en Éthiopie pour un sommet extraordinaire de l'Union africaine où ils chercheront à s'accorder sur un projet de réforme institutionnelle de l'organisation portée depuis 2 ans par le président rwandais Paul Kagame. Pour l'instant, l'Afrique du Sud, le Zimbabwe, le Botswana, les Comores, le Togo et le Ghana ont confirmé qu'ils enverraient leur président. Le Nigeria et le Mozambique délégueront le ministre des Affaires étrangères. Les autres pays n'ont pas fait savoir qui se déplacerait. Des artistes ayant soutenu le président Paul Biya sont boycottés par un mouvement de la diaspora camerounaise dénommé Brigade Anti-Sardina. Le mouvement a vu le jour après la victoire de Paul Biya et il reproche à ses artistes d'avoir pris part à un concert organisé en fin de campagne électorale par le parti au pouvoir. À Yaoundé, retrouvons notre correspondant Emmanuel Jules Nta.
Mon choix est unique et il reste à vie.
Ama Pierrot est artiste musicien et réside au Cameroun. Il s'est toujours produit jusqu'ici hors du pays sur invitation de la diaspora camerounaise. Le 6 octobre dernier, l'artiste Ama Pierrot a pris part à Yaoundé au concert de fin de campagne du président Paul Biya.
J'avais des trucs au Canada, d'autres aux États-Unis, d'autres en France. Tout ça là, c'est annulé parce que les gens trouvent que nous, on est allé supporter Paul Biya. Ok, il n'y a pas de problème.
Lady Bones, Coco Argenté, Katino, Karens Futso, les humoristes Moustique le Charismatique et Kaiser Show avaient eux aussi répondu à l'appel lors de ce concert de soutien à Paul Biya. Au moins 4 spectacles de certains de ces artistes ont été annulés par la police en France et en Allemagne depuis le 31 octobre dernier. Le mouvement Brigade Anti-Sardina a, à chaque occasion, organisé des sittings de protestation contre ces spectacles.
Il n'y a plus de concert pour vous en Europe, en Amérique, au Canada, même en Afrique. Nous allons prendre les dispositions là-bas.
Emmanuel Kemta est l'un des activistes de la Brigade Anti-Sardina.
Le pays souffre et vous vous amusez comme ça? Vous partez chanter pour Paul Biya parce qu'il a donné de l'eau au Cameroun? Parce qu'il y a les routes au Cameroun? Parce qu'il y a l'électricité au Cameroun? C'est pourquoi?
Des menaces à caractère politique que ne digère pas l'artiste Echo du Palais, auteur-compositeur d'un célèbre chant à l'honneur de Paul Biya.
Paul Biya, Paul Biya, notre président.
L'artiste Echo du Palais est aujourd'hui l'un des administrateurs de la Société nationale camerounaise de l'art musical, SONACAM.
Longue a supporté les autres candidats. On n'a pas lancé les pierres à cela parce que nous sommes dans le contexte démocratique.
Le boycott de certains artistes camerounais par la Brigade Anti-Sardina ne laisse pas indifférent Jean-Pierre et Don Compandré, résident de Yaoundé.
Cette situation, comme ça, c'est ça qui peut amener les conflits. Il est vrai que les Camerounais souffrent dans la colère, ils prennent certaines décisions, mais ce n'est pas bien.
Si les artistes aujourd'hui disent qu'ils tournent le dos au RDPC, ils vivent dans le pays du RDPC. S'ils disent qu'ils tournent le dos à ceux qui sont en Europe, ils sont appelés à voyager d'une manière ou d'une autre, puisqu'il n'y a rien de profitable pour la justice au pays. Donc c'est très grave cette situation-là.
Narcisse Moëlle Kombi, le ministre camerounais de la Culture, s'est exprimé sur cette question. Je condamne les 10 agissements dans la mesure où ils constituent une atteinte grave à la liberté d'opinion et d'expression, a-t-il déclaré. VOA Afrique a appris que le conseil d'administration de la Société nationale camerounaise de l'art musical va inscrire à l'ordre du jour de sa prochaine assise le sujet du boycott de certains artistes camerounais par la Brigade Anti-Sardina. Yaoundé, Emmanuel Jolunta, VOA Afrique.
En République démocratique du Congo, plus de 25 000 cas de choléra, dont 857 décès ont été enregistrés depuis le début de l'année. Selon l'OMS, l'épidémie cette année est caractérisée par une réactivation de cas dans les anciens foyers de 2017 et par la résurgence des nouveaux foyers dans les différentes provinces. Les détails, Irénée Amanumbo.
Les populations les plus affectées sont celles qui vivent dans les zones non loin de grands cours d'eau, dans les zones où il y a un manque d'eau potable pour les populations et des problèmes d'assainissement. Selon l'OMS, au moins un cas de choléra a été signalé dans 21 des 26 provinces du pays. Les provinces les plus affectées par la recrudescence de la maladie sont celles du Kasaï oriental, de l'Omami, du Sud Kivu, de la Tanganyika et du Haut-Katanga. Les experts de l'organisation indiquent que plus de 15 700 cas en moyenne sont attendus pendant les 6 prochains mois en RDC. La vaccination des populations à haut risque est dans le plan de riposte. Plus de 6 millions de personnes sont ciblées dans les zones à haut risque avec 2 doses de vaccin OCV d'ici 2020. Outre le choléra, la RDC fait face à sa 10e épidémie de fièvre hémorragique Ebola dans les provinces du Nord Kivu et dans l'Ituri, qui a fait 212 morts depuis sa déclaration le 1er août.
La France, la Russie et les États-Unis étaient engagés mercredi dans des négociations pour tenter de dépasser leurs différends sur les efforts de paix en Centrafrique à l'approche de la date butoir pour le renouvellement du mandat de la mission onusienne dans ce pays. Le Conseil de sécurité doit voter sur la prolongation de la MINUSCA, la force des casques bleus en Centrafrique, d'ici minuit ce soir, date à laquelle le mandat de la quatrième plus grande mission de l'ONU expire. La Russie et les États-Unis ont émis des objections sur un projet de texte élaboré par la France qui verrait les casques bleus appuyer les forces nationales nouvellement formées dans leur déploiement à travers le pays. En Côte d'Ivoire, trois organisations de défense des droits de l'homme ont annoncé aujourd'hui avoir déposé un recours contre l'amnistie accordée par le président Alassane Ouattara à quelques 800 Ivoiriens, dont l'ex-première dame Simone Gbagbo, poursuivie ou condamnée dans le cadre de la crise ivoirienne. La Fédération internationale des Ligues des droits de l'homme, la FIDH, le Mouvement ivoirien des droits humains, MIDH, et la Ligue ivoirienne des droits de l'homme, la LIDO, demandent aux autorités ivoiriennes de revenir sur l'amnistie pour garantir le droit à la justice des victimes, selon les termes du communiqué publié à cet effet. Emmanuel Macron effectue ce jeudi une courte visite au Maroc pour inaugurer avec le roi Mohamed VI la ligne à grande vitesse entre Tanger et Casablanca, considérée comme une vitrine pour le développement économique du royaume et pour le savoir-faire des entreprises françaises. Répondant donc à l'invitation du roi, le chef de l'État français voyagera avec lui à bord du train rapide au départ de Tanger, grand hub maritime entre l'Afrique et l'Europe jusqu'à Rabat, la capitale administrative. Toujours au Maroc, le procès en appel des leaders du mouvement du Irak ayant agité le Nord en 2016-2017 a débuté hier à Casablanca. Ils avaient été condamnés en première instance à des peines allant jusqu'à 20 ans de prison, Abdourahmane Dia.
Durant la première audience devant la chambre criminelle, ils ont scandé des slogans promettant de ne jamais trahir leur mouvement Hirak. Maître Mohamed Aïd Benasser, un de leurs avocats, a dit être pessimiste sur la procédure d'appel en regrettant ce qu'il appelle l'absence de signaux positifs. L'un des avocats de l'État a pour sa part justifié les peines prononcées en première instance par les dégâts matériels et les blessés chez les forces publiques pendant les manifestations. 42 prévenus ont été appelés tour à tour devant les juges. Tous avaient été arrêtés dans la province d'Al-Hoceima, dans le nord du pays et épicentre du Hirak, et transférés à Casablanca où ils ont été incarcérés. Le leader du mouvement Nasser Zefzafi et trois de ses compagnons ont été condamnés à 20 ans de prison ferme pour complot visant à porter atteinte à la sécurité de l'État. 11 d'entre eux ont été graciés fin août par le roi Mohamed VI, en même temps que 177 autres personnes liées au mouvement et condamnées par d'autres tribunaux. La protestation populaire a été déclenchée par la mort en octobre 2016 d'un vendeur de poissons broyé dans une benne à ordures en tentant de s'opposer à la saisie de sa marchandise.
VOA Afrique en direct de Washington.
Ici aux États-Unis, Donald Trump et Kim Jong-un devraient se rencontrer à nouveau après le nouvel an, a indiqué le vice-président américain Mike Pence, insistant que son gouvernement ne referait pas l'erreur d'accepter des promesses rompues. Mike Pence s'exprimait après une rencontre avec le président sud-coréen Moon Jae-in en marge du sommet annuel de l'ASEAN qui rassemble une vingtaine de chefs d'État. Le Bangladesh devait lancer ce jeudi l'opération de rapatriement vers la Birmanie, voisine de centaines de milliers de Rohingyas ayant fui ce que l'ONU qualifie de génocide. Mais mardi, l'ONU lui a demandé de stopper l'opération, estimant que les conditions n'étaient pas réunies en raison du risque de persécution. Le Haut Commissariat aux réfugiés, le HCR, n'a toutefois pas précisé si le plan de rapatriement prévu aujourd'hui sera annulé, alors que l'ONG Human Rights Watch a ajouté sa voix aux appels à annuler immédiatement l'opération. Et puis, le président du Yémen s'est déclaré favorable à des négociations proposées par l'ONU pour mettre fin au combat dans ce pays arabe menacé par la famine, tout en soulignant que la ville de Hodeida, dans l'ouest, aux mains des rebelles houthis, devait être libérée par la paix ou la guerre. Depuis lundi après-midi, un calme relatif prévaut à Hodeida après 12 jours de bombardements et de combats meurtriers. Jean-Roger Billon, point final à ce journal. Le prochain, c'est dans 50 minutes. Vous retrouverez Henri Francisque. Bon après-midi à tous sur le continent et à bientôt.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.